France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec vous Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. La littérature a-t-elle une responsabilité morale vis-à-vis de l'histoire? Pour lui, elle était un moyen d'éveiller les consciences. L'écrivain hispano-péruvien Mario Vargas Llosa est décédé hier à l'âge de 89 ans. On reviendra sur son attachement particulier à la France. Avec la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, on se demandera quels sont aujourd'hui les atouts dissuasifs de la Chine susceptibles de riposter aux droits de douane américains. On s'interrogera également sur l'opportunité de la lutte contre l'optimisation fiscale pour réduire le déficit dans l'Hexagone. On tâchera par ailleurs de détailler cette plainte pour homicide involontaire déposée contre deux ministres. Enfin, avec notre invité aujourd'hui et en pleine affaire Rachida Dati, on s'interrogera sur les missions, mais plus encore les limites de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. En tranchant avec tous les codes de la tradition narrative de son époque, son œuvre avait fini par traverser les genres jusqu'à faire de lui une figure majeure et même fondatrice du renouveau de la littérature latino-américaine dans les années 60. Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature, virtuose de la narration et rêveur par nature, est donc décédé hier, chroniqueur des mystères comme des réalités sociales, en même temps que contempteur des dérives de l'Amérique hispanique, l'auteur de chefs-d'œuvre tels que La ville et les chiens, ou bien encore Conversation dans la cathédrale, était un passionné, notamment de politique, parfois critiqué d'ailleurs pour ses positions conservatrices, mais aussi un passionné tout court, dont la vie amoureuse était à l'image de son œuvre intense et tumultueuse. Adrien Toffolet, bonjour.
Bonjour.
Traduit en une trentaine de langues, ce francophile élu à l'Académie française avait été le tout premier écrivain étranger à entrer de son vivant dans la prestigieuse collection de la Pléiade, et c'est aussi à Paris, Adrien, qu'il avait écrit ses premiers romans.
Effectivement, il s'y installe à 23 ans en 1959, premier pied en Europe avec l'Espagne, loin de son Pérou natal. Mais en réalité, il connaît déjà Paris et la France, découvert à travers la littérature française, d'abord durant l'enfance, Alexandre Dumas, Jules Verne, Victor Hugo, lecture pour le moins singulière dans un pays où l'on ne trouvait à l'époque que peu de librairies. Puis viendront Sartre et Camus à l'université, Jean-Paul Sartre qui sera décisif, disait-il, pour sa formation intellectuelle, père d'un bref engagement à gauche. À Paris, il y écrit ses premiers succès, notamment La ville et les chiens en 1963, publié en 1966 par Gallimard. Paris qui a été un déclic pour les écrivains du boom latino-américain des années 50 et 60, comme l'expliquait Vargas Llosa sur France Culture, au micro de Gérard de Cortance, qui lui consacrait un avoine nu en 1993.
C'est à Paris que j'ai découvert que j'étais un latino-américain. Jusqu'alors, je me sentais un péruvien qui rêvait de devenir, du point de vue culturel, un Européen, hein, et peut-être même un Français. C'est à Paris que je suis commencé à lire la littérature latino-américaine par plaisir. Jusqu'alors, je l'avais lu seulement par obligation, hein, à l'université. Et j'ai découvert qu'il y avait une littérature latino-américaine très riche, très originelle, qui était en même temps une littérature créatrice de formes, de nouvelles formes d'écriture, très ambitieuse et très variée.
Mais si l'œuvre de Vargas Llosa est intimement liée au Pérou, le nom Vargas Llosa est quant à lui indissociable de celui de Flaubert, dont il loue le réalisme à la dimension poétique et la discipline de travail qu'il a construite en écrivant Madame Bovary, premier livre que Vargas Llosa achète en France dans une librairie du Quartier Latin, analysé et décortiqué dans son essai L'orgie perpétuelle, paru en 1978, toujours chez Gallimard, dans lequel il avoue une relation passionnelle avec le personnage d'Emma Bovary, au point de se convaincre un peu plus qu'à travers la littérature, on pouvait changer la vie, le sens même qu'il a donné à son œuvre foisonnante.
Merci Adrien Toffolet. C'est depuis une station balnéaire équatorienne de la côte pacifique que Daniel Noboa, 37 ans, s'est réjoui hier d'une victoire historique. Avec 56% des voix, le président sortant a largement devancé sa rivale de gauche, laquelle réclame aujourd'hui un recomptage des voix, mais tout porte à croire que les électeurs ont donc plébiscité la fermeté du jeune entrepreneur millionnaire dont le premier mandat avait été placé sous le signe de la lutte contre la violence galopante alimentée par les cartels. Connu pour sa politique dite de la poigne de fer contre la la criminalité. Le président du Salvador est lui attendu aujourd'hui à la Maison Blanche et nul doute que Nayib Bukele sera reçu avec les honneurs par Donald Trump, lui qui est devenu un précieux allié dans la nouvelle politique de Washington de renvoi forcé d'immigrés sans papier en Amérique latine. Les deux hommes ne cessent d'ailleurs de se complimenter sur les réseaux sociaux et pour remercier son hôte, Nayib Bukele a déjà promis de lui apporter plusieurs canettes de Coca Light, la boisson préférée de Donald Trump. Et puis l'autre événement de ce lundi dans la capitale américaine sera sans aucun doute l'ouverture du procès de Meta et de son patron Mark Zuckerberg. Le géant des réseaux sociaux est soupçonné d'avoir abusé de sa position dominante lors du rachat d'Instagram puis de WhatsApp. En clair, le groupe californien est accusé d'avoir cherché à étouffer des concurrents potentiels. Alors la troisième fortune mondiale a multiplié les avances pour s'attirer les bonnes grâces du milliardaire républicain de retour à la Maison Blanche, jusqu'à récemment tenter de persuader l'administration d'opter pour un règlement à l'amiable. En vain, le procès est prévu pour durer 8 semaines.
En pleine guerre douanière avec Washington, le président chinois Xi Jinping est arrivé au Vietnam, première étape d'une tournée en Asie du Sud-Est, destinée à renforcer ses relations commerciales avec ses voisins.
Et surtout à compenser l'impact des droits de douane prohibitifs et monumentaux décrétés par le président américain. Et ce même si Donald Trump a lâché un peu du lest ce week-end en renonçant à la surtaxe prévue sur les smartphones et les ordinateurs fabriqués en Chine. Sauf que Washington maintient toujours des droits de douane à 145% sur tous les autres produits venus du géant asiatique. Et c'est ainsi que ce week-end aussi, Pékin a décidé d'étoffer sa riposte commerciale en restreignant, Frédéric Seitz, l'exportation de terres rares, essentielles notamment pour l'industrie américaine.
C'est l'un des atouts majeurs de la Chine pour riposter aux droits de douane américains. Pékin dispose d'un quasi-monopole mondial sur le raffinage des terres rares, autrement dit, la transformation du matériau brut en éléments utilisables par l'industrie. Industrie électronique, aéronautique, télécommunications, automobile, autrement dit, des secteurs clés pour l'économie mondiale. Désormais, la Chine impose une licence pour exporter certains de ces matériaux critiques, c'est-à-dire une autorisation administrative. Ces restrictions ont été annoncées par Pékin il y a 10 jours en rétorsion aux surtaxes douanières décidées par Donald Trump. Pour l'instant, il n'est pas question de stopper totalement les exportations de terres rares, mais c'est un premier avertissement qu'envoie ici la Chine. Une guerre commerciale ne fera aucun gagnant, avertit ce matin Xi Jinping. Le président chinois est au Vietnam, début d'une tournée en Asie du Sud-Est pour renforcer les liens avec ses voisins face à l'offensive commerciale de Washington.
Quant à la catastrophe, s'ajoute une tragédie 2 semaines après le tremblement de terre en Birmanie. La région tenue par les insurgés pro-démocratie est toujours privée d'aide. Pis encore, puisque la junte au pouvoir poursuit ses opérations militaires au milieu des ruines et ce, en dépit d'un cessez-le-feu annoncé après le séisme responsable de la mort de plus de 3600 personnes. Autre scène de dévastation à Soumy au lendemain de l'une des attaques russes les plus meurtrières depuis le début de l'année. Hier, la ville du nord-est de l'Ukraine, devenue le symbole de la résistance face à l'envahisseur, a été visée par une attaque de missile qui a fait au moins 34 morts et 117 blessés. Alors ce bombardement intervient une semaine seulement après celui d'une autre ville symbolique, Kryvyi Rih, la cité natale de Volodymyr Zelensky, et surtout en pleine tractation diplomatique pour une trêve, preuve selon le président ukrainien que Vladimir Poutine n'a jamais voulu arrêter la guerre. Les précisions d'Éric Biegala.
C'est peut-être le résultat de l'engagement des deux pays de ne plus frapper les infrastructures énergétiques de son adversaire. Les missiles et les drones kamikazes russes ne visent plus, de fait, les centrales ou les relais électriques de l'Ukraine. Mais en revanche, la Russie ne s'interdit nullement d'aller frapper les centres-villes. C'était le cas samedi sur Soumy. Deux missiles de type Iskander chargés de sous-munitions ont fait explosion à proximité du centre des congrès de l'université de Soumy, un centre qui accueille normalement plusieurs cours ou clubs, y compris des cours pour enfants. Ce qu'il y a de certain, c'est que s'agissant de missiles Iskander, parfaitement précis, c'est bien le centre-ville de Soumy qui a été visé. Quant à l'emploi de sous-munitions, le missile en fait largue plusieurs dizaines de petites bombes. Il signale que le tireur entendait faire un maximum de victimes, et ce, en dehors du champ de bataille, s'en prenant directement à la population civile. Pareil emploi de sous-munitions dans un tir de missile sur un centre-ville avait déjà eu lieu à Kryvyi Rih, dans le sud de l'Ukraine, le 4 avril dernier. Un jardin d'enfants et plusieurs immeubles d'habitation avaient été touchés, tuant 19 personnes, dont 9 enfants.
Midi et 39 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Une conjoncture économique qui se dégrade, des plans sociaux qui se multiplient, un taux de chômage qui repart à la hausse. C'est dans ce contexte que le gouvernement a annoncé un effort de 40 milliards d'euros pour le budget 2026. Comprenez des économies supplémentaires. Éric Lombard lui-même évoque un engagement, je cite, très considérable. Et pour y parvenir, le ministre français de l'économie dit souhaiter notamment que la contribution différentielle sur les plus hauts revenus appliquée aux ménages les plus aisés et présentée initialement comme temporaire soit pérenne. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Thomas.
Rappelons que cette contribution fixe un taux minimal d'imposition de 20% et qu'elle est présentée par le gouvernement, Camille, comme un outil de lutte contre les suroptimisations fiscales.
En d'autres termes, utilisé hier par la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, il s'agit de s'assurer que tout le monde paye sa juste part d'impôts, que les plus hauts revenus, ceux qui ont parfois recours à des produits financiers ou des montages très complexes qui leur permettent de réduire leur taux d'imposition, contribue bien à l'effort fiscal au même taux que les autres Français. Éric Lombard insiste donc sur le fait qu'il ne s'agit pas de réintroduire un impôt sur la fortune ou de prolonger en l'état la contribution exceptionnelle de cette année sur les bénéfices des grandes entreprises, mais bien de pérenniser un dispositif fiscal anti-optimisation, question de solidarité et de justice fiscale. Donc à Bercy, on ne se cache pas du fait qu'il faut aussi trouver un moyen de conserver les 2 milliards d'euros environ de recettes fiscales attendues de la contribution exceptionnelle, mais avec comme impératif tout de même d'éviter les effets négatifs de celle-ci, ne pas pénaliser l'outil de travail dans les entreprises ni les capacités d'investissement dans l'économie française. L'équation s'annonce complexe à résoudre et la mesure devrait concerner quelques dizaines de milliers de contribuables, nous dit-on, ceux qui gagnent plus de 250 000 euros par an pour une seule personne ou 500 000 euros pour un couple sans enfants.
Merci Camille Magnard.
Rachida Dati a-t-elle omis de déclarer 400 000 euros de bijoux à la Haute Autorité pour la Transparence de la Ve République, de la Vie Publique, pardon.
Depuis la publication, c'était la semaine dernière, de l'enquête du journal Libération, la question agite la sphère politique, médiatique et interroge sur les limites de l'institution, à tout le moins sur son efficacité, mais aussi sur les difficultés qu'il y a en démocratie à réguler entre les intérêts publics et privés de nos gouvernants. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Jean-François Kerléau, professeur en droit public à Aix-Marseille Université. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors depuis que la ministre de la Culture est donc soupçonnée d'avoir omis de faire apparaître quelques 420 000 euros de bijoux dans sa déclaration de patrimoine remise à la Haute Autorité, celle-ci a fait savoir qu'elle entendait porter plainte pour diffamation contre le quotidien. Ses avocats estiment que la publication d'informations relatives à la possession avérée ou non de bijoux relèverait de la sphère de la vie privée. Est-ce qu'un responsable public peut se réclamer donc de la vie privée pour soustraire une partie de son patrimoine à sa déclaration auprès de la Haute Autorité ?
Eh bien, désormais, depuis la loi du 11 octobre 2013, normalement non, puisque ce texte prévoit expressément que les responsables publics et les membres du gouvernement doivent déposer une déclaration qui contient notamment donc les biens mobiliers. Et plus précisément, la HATVP a été amenée dans un guide du déclarant à préciser que tous les biens d'une valeur excédant 10 000 euros individuellement doivent être mentionnés dans la déclaration. Le texte de 2013, en plus, avait été contrôlé par le Conseil constitutionnel, qui n'y a pas vu là une inconstitutionnalité particulière. Si ça avait été contraire à la vie privée, il l'aurait censuré, ce qui n'a pas été le cas sur ce point.
Ça veut dire quoi? Que la Haute Autorité est au fond totalement tributaire de la bonne foi de celui ou de celle qu'elle est censée contrôler?
Alors, dans son contrôle des déclarations, dans une certaine mesure, oui, mais pas totalement quand même, parce que la HATVP dispose d'un accès à des fichiers détenus par Bercy, notamment, pour s'assurer que les déclarants ont effectivement mentionné dans leur exhaustivité les biens dont ils sont propriétaires. Mais évidemment, la HATVP ne peut pas non plus s'assurer d'un contrôle total sur le patrimoine, et notamment le patrimoine mobilier. Donc on voit bien ici toute la difficulté que peut avoir la HATVP pour s'assurer en fait de l'exhaustivité, de l'exactitude de la déclaration dans une certaine mesure.
À ce titre, il se trouve qu'un autre événement d'actualité vient mettre en exergue donc le rôle de la haute autorité dans la régulation de notre vie démocratique, puisque c'est aujourd'hui qu'Alexis Kohler quitte officiellement sa fonction de secrétaire général de l'Élysée pour devenir directeur général adjoint de la Société Générale. Ce sera à partir du mois de juin. Or, appelé à se prononcer sur les mobilités professionnelles du public au privé, la haute autorité a, comme souvent, rendu un avis réservé sur ce transfert, estimant que ses fonctions publiques sont compatibles avec son futur emploi, à la condition qu'il ne prenne pas contact avec d'anciens ministres ou d'anciens collaborateurs. Et puis la délibération rappelle qu'il incombe à M. Kohler de n'utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques. Est-il seulement possible, là encore, de vérifier qu'Alexis Kohler se pliera bien à ses obligations ?
Alors déjà, il faut revenir sur cette décision, donc qui est une décision d'acceptation avec quelques réserves. C'est d'ailleurs en dépit des critiques que la HATVP peut subir, ce sont principalement décisions acceptant les mobilités qu'elle rend avec quelques réserves. Les réserves, en l'espèce, sont assez classiques. L'interdiction de revenir, d'entrer en contact avec d'anciens collaborateurs, d'anciennes personnes avec qui il était en fonction. Mais on s'aperçoit que dans cette décision, des précautions quand même sont prises parce que les réserves sont très précises par rapport à d'habitude. Les personnes visées avec qui il est interdit d'entrer en contact sont nommément désignées, ce qui est assez rare. Donc ça, c'est quand même le premier aspect. C'est une décision qui est quand même extrêmement précise et qui montre quand même la jurisprudence assez libérale de la HATVP en la matière.
Quelles pourraient être, selon vous, les mesures qui permettraient de renforcer les pouvoirs de la haute autorité pour la transparence de la vie publique ?
Alors, c'est vrai que comme vous le disiez dans votre première question, la HATVP s'est vue attribuer par rapport à la commission qu'elle remplace des pouvoirs de contrôle a posteriori, c'est-à-dire qu'elle peut désormais contrôler les réserves qu'elle a émises, enfin le respect des réserves qu'elle a émises dans ses décisions, par tout un tas de procédés, de techniques, mais on sait qu'au regard des moyens dont elle dispose, ces contrôles sont quand même assez dérisoires, notamment en nombre. Il est difficile de contrôler l'intégralité des personnes à qui elle a rendu une décision. Et ensuite, les moyens de contournement, en fait, de ces réserves sont assez nombreux. Donc, ça reste une plus-value par rapport à un régime juridique qui existait avant sa création, mais évidemment, qui connaît encore aujourd'hui des lacunes que l'on pourrait chercher éventuellement à combler en renforçant les moyens d'enquête et d'investigation de la haute autorité et puis en la dotant également de pouvoirs de sanction, ce qu'elle demande depuis plusieurs années aujourd'hui.
C'est bien compris. Merci Jean-François Kerléo, professeur, je le rappelle, en droit public à Aix-Marseille Université, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
C'est l'un des symptômes les plus terrifiants de la crise chronique que connaît l'hôpital public.
Oui, les suicides de soignants, le tout dans un contexte permanent de restructuration massive et répétée, mais aussi de dégradation des conditions de travail totalement illégales et mortifères, avec en particulier des rythmes insoutenables. C'est ce qui en ressort d'une plainte déposée la semaine dernière par 19 personnes, des soignants, mais aussi des veufs ou des veuves. Une plainte déposée auprès de la Cour de justice de la République pour harcèlement moral et homicide involontaire. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
En l'occurrence, cette plainte vise plus spécifiquement les ministres de la Santé et de l'Éducation, Catherine Vautrin et Elisabeth Borne.
Ainsi que Yannick Neuder, chargé de la Santé et de l'accès aux soins auprès de Catherine Vautrin. Aucun des trois ministres n'a répondu pour l'instant à la presse. C'est l'avocate Christelle Maza qui, elle, a déposé aussi des plaintes parallèlement directement contre la PHP dans d'autres affaires. C'est donc elle qui a rassemblé les 19 dossiers, 19 familles frappées par un même drame, un suicide, pas forcément sur le lieu de travail, mais d'après les proches, en lien direct avec les conditions d'exercice du métier. On devrait dire de tous les métiers, car la Cour est invitée à se prononcer sur le suicide d'infirmières, de brancardiers, de médecins, de chefs de service, d'animateurs, leur seul point commun étant d'avoir travaillé à l'hôpital public. Notamment à Béziers, à Brumath, près de Strasbourg, à Poissy ou à Paris aussi. La veuve du cardiologue Jean-Louis Ménien qui s'est suicidé à l'hôpital européen Georges Pompidou en 2015 se joint à la nouvelle plainte plainte devant la Cour de justice de la République. Alors à noter qu'on ne saura qu'à l'automne si la CJR décide d'instruire cette plainte. En tout cas, en préambule, l'avocate souligne les signaux envoyés depuis tant d'années pour alerter sur la crise de l'hôpital. Elle invoque la jurisprudence France Télécom. Comme les chefs d'entreprise des ministres sont responsables de l'organisation qui conduit à ces drames, plaide l'avocate, des drames dont aucune statistique interne ne mesure d'ailleurs l'ampleur. Pourtant, on sait que le secteur de la santé et de l'action sociale présente le taux de mortalité par suicide le plus élevé comparé à toutes les professions en France. Une triste réalité calculée sur les années 1976-2002, déjà par Santé publique France.
Merci Tara Schlegel. La CGT Cheminot, première organisation syndicale de la SNCF, appelle à une grève à compter du 5 mai, notamment sur des questions de rémunération, renforçant ainsi la possibilité d'une semaine noire dans les transports après les appels à la grève d'autres organisations. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Nuageux sur une large partie du pays, des orages pourront même éclater du côté de la Méditerranée. Quant aux températures, elles seront comprises entre 12 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Carline Desrosiers. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.